Donc oui, aujourd'hui, j'ai cru bon de faire un retour sur le livre de Benjamin Graham, The Intelligent Investor, l'investisseur intelligent, qui a été écrit en 1949. Ce livre-là a la particularité d'avoir changé la vie de Warren Buffett, et à ce jour, Warren Buffett continue de dire que c'est le meilleur livre de finance qu'il a lu. Il recommande à tout le monde de le lire et en plus, il va dire que le chapitre 8 et le chapitre 20, si on n'a pas beaucoup de temps, ce seraient les deux chapitres qu'il faudrait absolument lire. Et dans le chapitre 8, je le relisais ce matin, puis il y a un paragraphe de 113 mots que Jason Swaig, qui celui-là qui fait l'analyse dans la nouvelle version de l'investisseur intelligent, il y a des commentaires de Jason Swaig et il y a un paragraphe dans le chapitre 8 de 113 mots où est-ce qu'il mentionne et dit si vous c'est les 113 mots les plus importants qui ont été mentionnés ou écrits par Benjamin Graham. Fait qu'imaginez-vous le livre le plus important, le chapitre 8 par Buffett et les 113 mots. Fait qu'on va aller faire le tour, on va regarder ça ce matin ou cet après-midi, ça dépend comment quand est-ce que vous écoutez ça. Et puis, oui, et puis la raison qui fait que je vous en parle aujourd'hui, c'est que je commence à recevoir des appels et des commentaires de conseillers ou planificateurs financiers ou même d'investisseurs et qui me demandent, Pierre-Luc, c'est-tu le temps de vendre? Écoute, ça, on a atteint, le Dow Jones a atteint au mois de septembre un plus haut historique de 26 769. Donc, ça, c'est l'indice Dow Jones, là, au niveau du nombre de points. Puis si on s'amuse à regarder où est-ce qu'il était en 1932, cet indice-là, il était à 41. Donc, il est parti de 41 à 26 769 en passant à travers toute la Deuxième Guerre mondiale, tout ce que vous savez, puis on compte même pas les dividendes. Donc, bref, l'indice Dow Jones et l'indice S&P 500, bien évidemment, est à un plus haut de tous les temps. Et ça rend les gens, on pourrait dire, nerveux. Et puis, on se demande si on devrait vendre. Et c'est pour ça que ça m'a donné l'idée aujourd'hui de faire ce podcast-là sur le chapitre 8, simplement le chapitre 8 de l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Alors, bonne écoute! Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas repris mon livre. Je me rends compte de ça parce que ce que j'avais mis en jaune, vous savez, quand on surligne avec un crayon, pas feutre, là, mais en tout cas, un highlighter, excusez, un crayon marqueur, il est rendu tout pâle. Le jaune, il paraît presque plus, mais c'est le fun de revoir mes anciennes notes puis de voir les mots que j'avais soulignés. Puis j'avais même tout collé ça ensemble avec un clip là, pour ce chapitre-là, puis les commentaires, puis ainsi de suite. Puis, bien, c'est sûr que je l'avais lu beaucoup avec insistance lors de l'écriture du cours et du livre Buffett. Je n'étais pas retourné dedans, ça fait déjà quelques années, même si j'en connaissais l'existence, puis le contenu en essence, puis en leur lisant avec du recul. C'est pour dire ce que ça fait le temps, hein, avec du recul, tu reprends un bon vieux livre, un classique. C'est pas tous les livres qu'on garde dans notre bibliothèque, mais vous savez, cet été, si vous avez suivi le podcast un petit peu, vous avez rendu compte que je suis allé interviewer plusieurs gestionnaires de l'émergence ici à Montréal. C'est une expérience fantastique en passant. Et dans plusieurs des cas, pas tous, mais dans plusieurs des cas, il y a des bibliothèques à l'entrée ou dans le bureau de ces gens-là. Et habituellement, quand il y a des livres sur les rayons des gestionnaires, sans exception, je pense qu'il y a toujours une copie de ce fameux investisseur intelligent-là. Alors, eux l'ont lu, les gestionnaires. Vous qui m'écoutez, bon, ben, peut-être que vous n'avez entendu parler, peut-être que vous l'avez juste lu rapidement, vous n'avez peut-être pas rendu jusqu'au bout, parce que c'est un livre qui est assez épais. La version que j'ai ici devant moi, là, c'est plus que à près de 600 pages. C'est écrit petit, c'est en anglais. Des fois, moi, c'est vrai qu'il y a la version française aussi, mais la version française n'est pas donnée. Je pense qu'aux dernières nouvelles, elle était autour de 50 $, puis ce n'est pas rien, mais c'est un bon investissement. Donc, oui, on y va sans plus tarder. Donc, la page 188 de la version anglaise que j'ai ici, j'ai une version relativement récente, quand je dis relativement, là, elle a peut-être 20 ans, mais quand même. Et puis, on y va. Donc, dans le chapitre 8, c'est le rapport avec l'investisseur et les fluctuations du marché. Donc, c'est évident que c'est un bon temps d'en parler parce que présentement, on arrive, ça fait 10 ans qu'on a atteint un plus bas historique, on se souvient tout de 2008-2009, où est-ce que voilà, 10 ans, c'était comme une catastrophe. Et j'avais aussi des appels dans le temps qui étaient au niveau de la panique. Aujourd'hui, c'est très drôle parce que j'ai des appels qui sont d'une certaine manière, pas de la panique autant qu'en 2008, puis une certaine forme de panique en se disant « Hey, ça se peut pas, le marché arrête pas de monter, le marché continue de monter, qu'est-ce qu'on fait? Je commence à avoir peur, je devrais être suivante, et ainsi de suite. » Donc, on embarque, on y va. Donc, ce qu'il dit dans le deuxième paragraphe, déjà en commençant dans le chapitre 8, il dit qu'un investisseur devrait savoir que c'est sûr et certain que s'il investit dans des obligations qui ont moins que 7 ans, puis qui ont dans les bons du trésor du gouvernement, c'est sûr que ces investissements-là ne sont pas stressants, sont pas, il n'y a pas de quoi être nerveux et il n'y aura pas beaucoup de fluctuations. Ça, c'est une évidence. It's a given, comme il dit. Par contre, il faut que l'investisseur sache que s'il achète des obligations, il investit dans des obligations qui ont plus que 7 ans ou dans des actions, il faut qu'il sache de façon claire, nette et précise que ça va bouger, que ça va fluctuer. Ça fait partie inhérente du principe d'avoir des investissements qui sont des obligations à long terme et d'avoir des actions. Donc, quand j'embarque, c'est un petit peu dans le fond comme se dire, bien, je prends l'avion pour me rendre en France ou m'en aller en Europe, mais quand je prends l'avion, c'est clair, net et précis qu'il y a un décollage, il y a une arrivée, il y a des turbulences. Dans un avion, ça brasse. Donc, quand je suis dans le marché des actions et des obligations à long terme, il faut que je sache en partant que ça brasse. Et ce qu'il dit, soyez prêt financièrement et soyez prêt psychologiquement. Donc, être prêt financièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai besoin de mon argent dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 ans et que ça me stresse, je ne suis pas prêt financièrement, je ne devrais pas être là-dedans. Et émotivement, autrement dit psychologiquement, c'est que si je ne suis pas capable de voir sur papier des baisses, ben je ne devrais pas être là-dedans. Et vous savez quoi, je pourrais arrêter juste dans ce premier paragraphe-là et ce sont des conseils que j'ai donnés à des gens, des conseillers ou des planificateurs qui me téléphonent. Puis c'est sûr qu'ils veulent toujours le meilleur pour leurs clients, mais ils me parlent de leurs clients qui sont nerveux, puis ils me parlent du marché. Est-ce que le marché va monter? Est-ce que le marché va baisser? Le problème, c'est que la question n'est pas posée au bon endroit. C'est qu'on pose la question à savoir le marché va aller où et des gens, même comme Buffett, comme Graham, peu importe ce que vous lisez, on revient toujours, c'est dit de façon différente, mais on revient toujours au même endroit. On ne le sait pas exactement, le marché va être où dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Tout le monde, on sait que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, l'économie grandit, puis ainsi de suite, puis ça s'en va en grandissant. Mais à court terme, sur un horizon de 1, 2 ou 3 ans, on ne le sait pas. Donc, si on a des clients, si vous êtes conseiller ou planificateur financier, ou vous êtes investisseur et que vous restez ou pas dans le marché sur la base à savoir est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser, vous ne posez pas la bonne question parce que ça, ce n'est pas une question d'investissement. Ça devient une question de spéculation. Et spéculation vient du latin speculare qui veut dire essayer d'anticiper l'avenir en regardant le présent, en ayant une capacité de pouvoir anticiper ce qui s'en vient. Puis anticiper l'avenir, c'est cute, ça fait de la bonne télé, ça fait de la bonne radio, ça fait de la bonne discussion. Mais quand on regarde ça dans les faits, puis vous pouvez regarder des prédictions qui ont été faites par des pundits, comme en anglais, des différents spécialistes, c'est très, très, très le fun de regarder 6 mois, 1 an et 2 ans après les prédictions qui ont été faites, puis après ça, de regarder ce qui s'est passé dans la réalité pour se rendre compte que finalement, des fois, si les prédictions sont avérées exactes, c'est peut-être une coup de chance, puis on pourra le revoir dans 2 ans ou 3 ans. Si c'est toujours, toujours vrai. Puis l'autre chose, c'est pour se rendre compte que le marché n'attend pas, il ne réagit pas selon les prédictions qu'on y fait. Donc, quand on reste dans le marché en pensant que ça va augmenter encore pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an, on ne devient pas, on n'a pas un comportement d'investisseur, on a un comportement de spéculateur. Et un comportement de spéculateur, il faut comprendre qu'on est en train de spéculer et qu'on a une attitude émotive, psychologique qui n'est pas saine pour un investissement à long terme. Donc ça, en partant juste ce premier paragraphe-là, fait réfléchir sur la nature même de savoir, autrement dit, qu'on est là-dedans. Ce qu'il dit en plus, deuxième paragraphe, ça vaut la peine de le lire. Je pourrais pas le faire paragraphe par paragraphe, ça va prendre 3 quarts d'heure le podcast. Je vais pas vous prendre trop de votre temps, mais je veux qu'on fasse quand même la base. Donc, première chose, il dit, il faut savoir qu'en partant, quand je m'en vais dans les actions et dans les obligations à long terme, il faut que je sache que ça va bouger. Ce qu'il dit de l'investisseur, il dit, il va vouloir, je le traduis en temps réel, il va vouloir prendre avantage de ça. C'est une nature normale et humaine. On va vouloir prendre avantage, autrement dit, on va aimer ou vouloir vendre quand ça monte, acheter quand ça baisse. Mais quand on tombe dans ces tendances-là, c'est là qu'on tombe dans un domaine de la spéculation et on n'est plus un investisseur. Un investisseur, on place ses billes, on est là et on garde à long terme et on ne se soucie pas des fluctuations quotidiennes. Quand on commence à avoir l'œil sur les marchés, l'œil sur les fluctuations et les variations, sans qu'on s'en rende compte, c'est pas écrit dans le ciel, mais sans qu'on s'en rende compte, il y a un changement qui se produit à l'intérieur de nous autres où on devient spéculateur. Et ça, je vais vous avouer sincèrement, je voulais faire le podcast, puis je voulais le lire pour vous en parler, mais je me rends compte que j'étais en train de tomber dans ce piège-là un petit peu en essayant de répondre aux questions le mieux possible de mes clients qui me téléphonent. j'étais en train de tomber un petit peu, pas beaucoup, mais juste une petite tendance à essayer. On essaie tout de savoir, de prédire, puis de lire, puis de voir ce qui va se passer avec les taux d'intérêt, puis ainsi de suite, puis Donald Trump, puis l'économie américaine, puis la guerre des tarifs, puis on tombe dans une discussion et on perd 30 minutes, une heure, deux heures, c'est pas long. Notre cerveau s'en va là-dedans, notre esprit, notre énergie, et on perd de vue la vue d'ensemble. Et ça, c'est super, super important. On continue. Donc, il dit, oui, et donc il dit, si vous avancez vers une pensée de spéculation, soyez-en conscient, ayez vos yeux bien ouverts. J'aime beaucoup ça, il dit. If you want to speculate, do so with your eyes open, knowing that you probably will lose money in the end. Faites-le en ayant les yeux ouverts, sachant que vous probablement vous allez perdre de l'argent à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. J'ai trouvé d'autres statistiques qui sont pas dans le livre qui vont vous aider. Donc, et puis il dit, si vous allez vers la spéculation, puis vous voulez quand même y aller vers là-dedans, ben écoutez, assurez-vous de séparer votre argent de spéculation de votre argent d'investissement. Et ça, je trouve ça intelligent comme conseil. Autrement dit, vous avez 100 000 $ ou 1 million de $ d'investi dans vos REER ou peu importe quoi, ben vous dites, écoute, il y a une partie que je vais prendre, il y a un 5, un 10, un 15 %. Je ne conseille pas nécessairement de prendre un gros pourcentage, mais je vais prendre un pourcentage. Et avec ce pourcentage-là, je vais spéculer, je vais faire des mouvements stratégiques, je vais agir en achetant ou en vendant ou en bougeant ou en tentant de prédire le marché. Mais l'autre partie, elle, je vais la laisser à long terme dans des investissements, idéalement avec des gestionnaires de l'émergence. Vous avez entendu parler comment ils peuvent être le fun. Publicité ici pour ma gang de cet été, de Montréal. Il y a beaucoup de bons gestionnaires à Montréal. Mais on les laisse gérer à long terme, autrement dit, au niveau du marché. On reviendra tantôt pour ce qui concerne l'analyse des actions particulières. C'est différent. Là, on se parle du marché. Je vous ai parlé du Dow Jones. Je parle des questions qui me viennent sur le fait que le S&P 500 est rendu à son plus haut historique ou que le Dow Jones est rendu à un plus haut historique. Donc, on se parle plus ici en conséquence du marché, non pas d'entreprise individuelle. Bien, justement, ça, on arrive au point numéro 3 qui s'appelle la différence entre le timing puis le pricing. Parce que Benjamin Graham fait une différence entre le market timing. Donc, le timing, comme on l'entend, excusez pour l'anglicisme, timer le marché, c'est pas mieux en français. Mais de faire du timing, c'est de regarder les fluctuations du marché et d'entrer et de sortir du marché dans son ensemble. Ça, c'est du timing. Le pricing, autrement dit, la bonne évaluation du prix, la valorisation d'une action. Mais là, on arrive, on va analyser un Amazon, un Apple, un Costco, un Metro, un Jean Coutu, peu importe l'action, et on va se demander si, par rapport au prix qu'elle est vendue, si le prix qu'on demande pour cette action-là, au niveau du pricing, au niveau de, est-ce que c'est un prix qui est intelligent pour nous autres? C'est très, très, très différent quand même. Les deux peuvent être en concordance, mais en réalité, il y a une différence entre regarder le marché dans son ensemble et regarder une action dans son particulier. C'est ce qu'il fait comme nuance. Ensuite, il mentionne un conseil, on est rendu juste à la page 2 du chapitre 8 en passant. Je pense que je n'aurai pas le temps de faire tout. Je vais être obligé de faire ça en deux parties, ça n'a pas de bon sens. Je regarde le temps filer. Donc, il dit ici, probablement ça va être ça que je vais faire, je viens de penser à ça, probablement je vais le faire en deux parties parce que ça n'a pas de bon sens. Donc, il dit, vous devriez vous éloigner de Wall Street. Un petit peu ce que Warren Buffett a fait en étant à Omaha, au Nebraska. Il dit, éloignez-vous de Wall Street parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit, il y a beaucoup de prédictions. Les prédictions sont faciles à faire, elles sont gratuites, puis il y a beaucoup de demandes pour les prédictions, puis dit, la demande étant là, ben il y a une offre qui se développe, parce qu'on va tout aimer se faire rassurer. C'est un peu comme c'est ainsi, on est au niveau de... Remarque que c'est peut-être pas la même chose, mais au niveau de la politique, c'est ainsi, on est dans les élections, puis il y a des sondages. Quoique le sondage est peut-être un petit peu mieux même que la prédiction économique, mais en tout cas, ce qu'il mentionne également, il parle de la théorie du Dow, où est-ce qu'on joue avec les moyennes mobiles, puis on regarde des signaux pour achat, des signaux pour la vente. Et si tout le monde suivait le conseil, exemple, au moment où quelqu'un dit « on devrait tous vendre » ou « on devrait tous acheter », si le marché écoutait ça et que l'ensemble de la population écoutait ou faisait en même temps la même chose, ben ça ferait que tout le monde vendrait et il n'y aurait plus personne qui achèterait. Et qu'au moment, quand viendrait le temps d'acheter, tout le monde voudrait acheter, personne ne voudrait vendre. Donc, ça créerait, autrement dit, la foule ne peut pas vraiment réussir là-dedans à battre la foule parce que la foule joue contre la foule au niveau des marchés financiers qui est toujours en train de se vendre les uns les autres des actions. L'action, c'est un bien qui est une pièce de propriété d'une entreprise et qu'on se l'achète et qu'on se la vende entre nous autres 12 fois durant l'année ou pas du tout, ça ne change absolument rien à ce qui se fait l'entreprise. Dernièrement, on a vu les Facebook ou les Apple ou peu importe les compagnies, on les voit monter ou baisser à la bourse. mais la variation de valeur boursière de ces compagnies-là ne touche pas leurs opérations au quotidien. Une action comme Metro, par exemple, pourra varier en plus ou en moins, peu importe quoi, mais les marchés Metro, ce qui se passe dans les opérations, les employés, les terrains, l'inventaire, toutes ces choses-là, c'est pas touché au quotidien par la variation du prix de l'action. L'entreprise, c'est une chose, le prix de l'action, c'est une deuxième chose, puis les deux sont complètement séparés. Puis je voudrais conclure cette... On essaie toujours de... C'est ça, de vouloir timer le marché, et c'est de se séparer de cette idée-là, de garder les yeux sur le long terme. Et c'est sûr et certain, comme on voudrait toujours, comme là présentement, on vient d'atteindre un plus haut, mais on atteint des plus hauts régulièrement à chaque année, parce que le marché, il ne faut pas oublier qu'on est parti de 41 en 1932 à 26 679. Ça veut dire que durant toutes les années, depuis 1932 à aujourd'hui, ça n'a pas toujours été positif, mais ça a été plus positif que négatif. Il faut penser aussi que des bear markets, des corrections, il y en a eu environ en tous les 3 à 5 ans. Il y en a au minimum une par 5 ans. Là, il n'y en a pas eu beaucoup dernièrement, mais il y a des corrections, il y en a régulièrement. Elles font des baisses régulières de 30 % des fois de 50 % La pire, ça a été 90 % en 1929 à 32. Mais des corrections, il y en a régulièrement, et c'est difficile de les prévoir et de les éviter. Mais il y a une chose que je veux vous dire ici, là, je vais sortir ma statistique. Alors, ça vient de Charles Schwab, et c'est une étude qui a été faite de 1996 à 2015. Et on dit, bon, dans cette période-là, on parle du S&P 500, donc de 1996 à 2015, c'est presque pendant 20 ans, le S&P 500 a fait une moyenne de 8,2% par année. Écoutez bien la prochaine. Si vous n'êtes pas là pendant les 10 meilleures journées, donc on enlève juste les 10 meilleures journées de bourse sur 20 ans, c'est rien là. Alors, votre rendement passe de 8% à 4,5%, il est coupé en deux. Si j'enlève les 20 meilleures journées, je tombe à un rendement de 2%. Et si j'enlève 30 journées, donc les 30 meilleures journées sur de 1996 à 2015, c'est 20 ans. Alors sur 20 ans, si je manque 30 meilleures journées de bourse, j'ai un rendement de zéro. Au final, autrement dit, on parle souvent des corrections baissières. On ne parle jamais des crashs en montant et que la bourse bouge en montant fort, rapidement. Et ce que ça fait, ça, c'est que si je ne suis pas dans le marché quand la bourse remonte fortement, je me retrouve sur la ligne de côté à avoir vendu, à être avec un piège émotionnel, émotif, difficile. Et je me dis, quand est-ce que je vais pouvoir rentrer dans cette valse-là? Donc, c'est un petit peu ce qu'il voulait dire Benjamin Graham en disant, ah oui, c'est vrai, j'avais promis en entrée de jeu que je vous parlerai du paragraphe de 113 mots. C'est par là que je ne peux pas vous le lire. Attends un petit peu. Oui, j'arrive ici. Alors, c'est la page 203 pour ceux qui ont la version là, la version révisée en anglais. Alors, il dit ici, je vous le traduis en temps réel, notez ce fait super important. Le vrai investisseur est très, très rarement obligé de vendre ses parts. Et à n'importe quel autre moment du marché, tout ce qu'il a à faire, c'est de ne pas regarder le prix courant. Et il n'a pas besoin de porter attention aux différents prix des actions. Donc, l'investisseur qui se laisse influencer par les variations, par les prix du marché, pour l'induire dans l'achat ou dans la vente, il perd l'avantage d'être un investisseur. Il serait mieux s'il avait investi dans des actions qui n'ont pas de cote sur le marché et qu'ils auraient gardé aussi longtemps qu'ils voudraient. Ça lui enlèverait la mental anguish, l'anxiété mentale qui est causée par le fait qu'il y a d'autres personnes qui se transigent ces actions-là à des prix des fois qui n'ont pas de bon sens en baisse ou en hausse. Autrement dit, on serait mieux si on n'avait pas accès au prix des actions. On serait mieux si on ne savait pas au juste qu'est-ce qui se passait. Pas dans un souci qu'il se passe des mauvaises affaires, mais d'être comme trop informé, c'est presque aussi pire que d'être mal informé. Et ça nous cause des ennuis et des soucis. Et j'ai, comme je vous disais, j'ai des téléphones qui rentrent de différents conseillers ou planificateurs financiers qui sont au courant du marché, qui voient les choses aller, qui suivent les marchés tous les jours. Puis ils sont presque aussi mal émotivement que la personne qui, elle, ne regarde jamais ça, qui a fait ses choses, puis qui a regardé peut-être une fois par année comment c'est allé, sans qu'elle sache vraiment, vraiment quoi. Juste, elle sait juste que c'est bon, puis que c'est bon à long terme. Fait que c'est pour dire que plus on en sait, des fois, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure des choses quand je suis dans le domaine de l'investissement, c'est que quand je confie mon argent à des gestionnaires, à des fonds ou à des gestionnaires en émergence, où je confie mon argent à des gens qui la surveillent, à des personnes qui vont aller choisir les bonnes compagnies pour moi, il va y arriver qu'il va y avoir des fluctuations aussi dans ces fonds-là. Mais moi, comme investisseur, si je ne me laisse pas tenter de vendre ou d'acheter ces fonds-là ou de rentrer ou de sortir du marché, je vais être mieux à la fin du compte. Au bout des 10 ans ou des 15 ans ou des 20 ans, je vais avoir fait les rendements composés annuels puis je ne me serais pas senti tout mal. Et vous, si vous êtes conseiller ou planificateur financier, c'est super important de savoir de bien placer votre client dans le bon profil. La plupart du temps, le problème, c'est que le client est dans un profil qui est trop agressif, que la personne n'est pas capable de supporter les baisses parce qu'elle n'est pas financièrement les reins assez solides. Elle va avoir besoin de son argent. Le fait que ça baisse en tant que tel va lui créer un stress. Ça veut dire que son profil d'investisseur a été fait un petit peu trop agressif, un petit peu trop en action pour ce que la personne est réellement capable de supporter. Et le problème ne devient pas le marché financier, le problème ne devient pas le fonds. Et il ne faut pas que le problème devienne le fait que je suis en train, il faut que je prévoie correctement les prochaines hausses ou baisses de marché. Vous vous mettez sur les épaules un poids qui est beaucoup trop grand. Vous vous mettez dans le trouble si vous faites ça et c'est absolument impossible de réussir à pouvoir le faire avec 100, 200 ou 400 clients que vous avez. Vous ne pouvez pas réussir à pouvoir gérer 400 comptes de cette manière-là. C'est pas la bonne façon de faire. Je sais que ça vient toujours du cœur, puis ça vient avec la meilleure intention du monde de ne pas vouloir que les gens perdent de l'argent. Mais il y a un fait, c'est qu'il faut être capable de supporter émotivement, psychologiquement et financièrement les hausses et les baisses de marché. Sinon, c'est mieux de ne pas aller jouer là-dedans. Autrement dit, on n'est pas fait pour ça. Donc, c'était en essence le chapitre 8. Je n'ai pas eu le temps de faire le tour au complet. Je pense que je vais revenir la semaine prochaine pour une suite à ça parce que c'est trop. Imaginez-vous, on s'est juste parlé de quelques paragraphes du chapitre 8 du livre de Benjamin Graham sur la fluctuation des marchés. Là-dedans, il nous parle aussi de Mr. Market, de plein de choses. C'est un classique, c'est pas pour rien que Warren Buffett l'a recommandé puis le recommande encore comme lecture. Il a été écrit originalement en 1949, il a été réédité bien évidemment mais l'essence est demeurée la même. Et je vous recommande, si vous avez la version anglaise, je vous la recommande. Et si vous pouvez vous acheter la version avec les commentaires de Jason Zweig, je vous la recommande doublement parce que il y a vraiment, vraiment du stock. Ça prendrait des heures à vous en parler. Donc, j'espère que ça va apprécier. J'espère que ça vous aide. Oui, on a atteint des sommets. J'espère que ça ne vous stresse pas. Je vous conseille de demeurer bien investi dans de la bonne qualité, dans des bons gestionnaires, des bonnes compagnies à long terme. Et même s'il y a des corrections qui s'en viennent, peut-être demain matin, je ne sais pas. Il faut penser qu'on n'est pas à la première correction. Après, on en a vécu d'autres. J'oublie les statistiques, mais on en a vécu des dizaines et des dizaines, si ce n'est pas des trentaines de corrections depuis une centaine d'années. Et on va en revivre d'autres. Alors, c'est ça. Alors, c'était mon petit côté investisseur aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, comme d'habitude, vous pouvez continuer de m'écrire, de me téléphoner, de me contacter. Je suis un peu partout sur les Facebook, Twitter de ce monde. Pierre-Luc Poulin. Donc, vous me cherchez, vous me contactez, ça va me faire plaisir. Puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci. Bye. À la prochaine.